les 60 ans de la copropriété. Entre héritage et renouveau, en partenariat avec Axéo Drieux-Combaluzier et Bâtisanté, jeudi 10 avril 2025 sur Radio Immo.
Et oui, en direct du CESE, bonjour, bienvenue sur Radio Immo, en direct du 12e forum de l'UNIS, organisé par l'UNIS Grand Paris Île-de-France. J'ai le plaisir d'être avec plusieurs personnes sur mon plateau. Alors, honneur aux dames, Roselyne Conan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de l'ANIL. Alors, l'ANIL, c'est l'Agence nationale pour le logement, pour l'information du logement. Je vais y arriver, c'est la fin de journée. Sur le logement. Et puis, avec vous, deux vice-présidents. Alors là, j'espère ne pas me tromper. Deux vice-présidents de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, Benjamin Darmouni. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Bon, vous êtes content de cette journée ?
Oui, on est très content de cette journée. On a beaucoup de monde, beaucoup de sujets extrêmement intéressants. Et puis c'est un rendez-vous anniversaire.
Mais c'est vrai, on va en parler dans quelques instants. François-Emmanuel Borel, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Pareil, content de cette journée ?
Ravi. N'est pas terminée.
Ouais,
c'est une belle journée d'anniversaire.
Alors justement, l'anniversaire de la loi sur la copropriété, donc 1965, c'est 60 ans aujourd'hui, presque aujourd'hui. Un petit mot justement sur cette loi, peut-être pour commencer, sur ce contexte. Il y a eu plein de tables rondes, hein, plusieurs tables rondes, vous avez chacun participé à des tables rondes concernant l'évolution de cette loi, concernant les nouvelles copropriétés, les copropriétés 2.0 2025. Un petit mot peut-être pour résumer l'ambiance. À qui le tour ?
L'ambiance, c'est Benjamin.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, résumer l'ambiance, oui, un anniversaire 60 ans, oui, d'importance évidemment. On a fait une table ronde sur la copropriété in ou out et ça résume un peu tout en fait. C'est-à-dire que nous, on est optimistes, on pense qu'on est vraiment in dans le sens où effectivement, il y a des évolutions qui ont eu lieu ces 60 dernières années. Mais ces évolutions, effectivement, ont permis à nos copropriétés de vivre et de survivre. Il faut savoir que, effectivement, on est dans un cadre collectif à chaque fois, dans des décisions qui sont pas toujours prises à l'unanimité. Et donc, c'est pour ça que mettre tout le monde d'accord est un réel enjeu. Est-ce qu'aujourd'hui, des évolutions doivent avoir lieu? Eh bien, c'est une vraie question parce que moi, je suis intimement persuadé que nos copropriétés vivent bien. Alors, effectivement,
vous êtes plutôt positif, hein. C'est ce que vous nous disiez à l'antenne.
Je suis complètement positif et j'y crois. Effectivement, on avait besoin de faire évoluer notre manière de travailler avec des intranets, avec des visioconférences, avec de l'interaction, même avec les copropriétaires qui ne sont pas physiquement présents. Effectivement, enfin, faut bien comprendre qu'on a eu François-Emmanuel parlait de quatre évolutions depuis 60 ans. Moi, je parlerai plus de révolution, mais je le laisserai développer. Mais très clairement, on a su s'adapter. Les professionnels ont su s'adapter. Donc, je pense qu'à un moment, il faut savoir leur faire confiance aussi.
Vous partagez cet avis, François-Emmanuel ?
Bien sûr. En fait, la loi de 65 est un socle sur lequel en fait, beaucoup d'évolutions ont eu lieu. Et pour autant, les protections sont toujours aussi bien assurées. C'est une protection d'ordre public pour lequel on sait très bien quelle est la nature du lot que l'on achète et dans quel environnement juridique on achète, ce qui est parfaitement stabilisé, puisque vous avez des règles de copropriété qui tiennent aux majorités d'assemblée générale, aux règles contributives, aussi bien sur l'assiette que sur le quantum que chacun doit composer. Donc on a, contrairement à un droit anglo-saxon sur lequel qui est assis surtout sur des règles qui sont internes, là vous avez véritablement un dispositif sur lequel qui vous permet d'emprunter de façon stable, de vous amener en garantie. On souscrit même des emprunts collectifs sans que les copropriétaires n'aient à fournir de justification très, très excessive. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est très sécurisant. Sur les révolutions dont on parlait, c'était tout d'abord le fait qu'on soit passé d'une société qui était de copropriété de famille, dans laquelle les gens se connaissaient parfaitement, pouvaient tenir compte un peu de leurs évolutions respectives et étaient regardants vis-à-vis d'un immeuble qui constituait un patrimoine familial, à une certaine dispersion avec la composante de plusieurs copropriétaires avec des intérêts très différents qui sont arrivés, qui ont composé la copropriété, et pourtant les règles sont restées les mêmes, et pourtant tout ça fonctionne. Ensuite, on a eu la particularité d'avoir un régime de droit de la consommation qui est rentré, qui a été quand même très important et a fait rentrer le locataire au sein des considérations de la copropriété, mais qui est venu protéger aussi les copropriétaires en modifiant les règles de majorité. Ensuite, on a eu la particularité d'avoir le prix du logement qui soit devenu le premier poste de dépense des Français dans les années 2000, début 2000. Et on est passé en moins de 15 ans, on a triplé la valeur de l'immobilier. Et pourtant, ces règles sont restées les mêmes. Donc, même si on avait changé beaucoup les équilibres, là, on a eu quand même les mêmes dispositifs qui ont pu s'appliquer. Et là, plus récemment, en fait, on a fait rentrer beaucoup d'éléments d'équipement au sein de la copropriété. Alors, j'ai évoqué le comptage, donc comptage individuel, l'individualisation des charges, mais aussi les antennes collectives, la vente de la loge, enfin plusieurs composantes qui, comme ça, sont venues ajouter des contrats, des contraintes, tous les diagnostics qu'on a pu connaître. Et puis, sur cette dernière évolution, en fait, c'est la considération du fait que c'est l'immeuble qui est pris en considération et non plus les copropriétaires et ses occupants. C'est-à-dire que c'est une composante de l'évolution sociétale et de ses interactions dans le climat, notamment.
Roselyne, alors quel regard porte l'ANIL justement sur la copropriété? Alors rappelez-nous peut-être brièvement ce que fait l'Agence nationale pour l'information sur le logement, j'y arrive cette fois-ci. Rappelez-nous peut-être votre rôle aussi auprès des copropriétaires et puis auprès des professionnels aussi de l'immobilier.
Oui, en effet, donc moi je suis le centre de ressources en fait d'un réseau, le réseau des ADIL, des agences départementales qui sont sur les territoires. Qui sont présentes dans 1200 lieux d'accueil, donc qui vont répondre gratuitement aux copropriétaires qui se posent des questions sur comment fonctionne la copropriété, quelles règles de majorité. Et simplement, peut-être en introduction, alors vous dire que voilà, ce réseau, il est là pour répondre aux questions, se dire que la copropriété va gérer, elle a beaucoup d'avenir, parce que depuis 2010, si on regarde les chiffres en matière de production de logements neufs, depuis 2010, la production de logements neufs, elle est plutôt dans le collectif que dans l'individuel.
Oui.
Avec les enjeux de sobriété foncière, on va aller continuer et poursuivre cette tendance. Donc ça veut dire que la copropriété, on va en créer et encore davantage en créer. Donc ça veut dire que, évidemment, cet objet, j'irais à la fois juridique, social, c'est quelque chose qui va continuer à se développer et c'est quelque chose qu'il faut davantage rendre accessible. Alors les syndics le font en expliquant tous les jours comment fonctionne la copropriété. Les ADIL le font également en expliquant quand un copropriétaire vient les voir. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la majorité des copropriétés sont gérées par des syndics professionnels. Mais on a encore des copropriétés qui sont gérées par des syndics bénévoles, donc qui ne sont pas...
Quelle est la part, d'ailleurs, de ces copropriétés?
Alors, je sais que nous, dans ceux qui viennent nous voir,
on a dit... Dans vos data, c'est ça?
Dans ceux qui viennent nous voir. Alors, tout le monde ne vient pas nous voir.
Mais oui, évidemment.
Mais c'est 17% de copropriétaires qui sont dans des copropriétés gérées par des syndics bénévoles. On a 4% de copropriétaires qui sont dans des copropriétés sans syndic. C'est-à-dire qu'on a encore des petites copropriétés
sans syndic,
qui ne sont pas du tout gérées.
Et j'imagine que les chiffres sont assez représentatifs de la société, du parc locatif en tout cas, enfin du parc de logements.
En termes d'immatriculation, ce parc de petites copropriétés qui s'ignorent, c'est, je pense, encore ce qui est devant nous et qu'on va encore découvrir par l'effet des mutations.
Ouais.
Évidemment, les notaires font le travail d'immatriculation que ne ferait pas le syndic parce qu'il n'y a pas de syndic. Donc évidemment, on a, nous, sur certains territoires, des ADIL qui sont missionnés justement pour aller chercher ces copropriétés qui s'ignorent, les structurer, les accompagner à la remise en place d'une gouvernance, tout simplement leur faire comprendre qu'il faut assurer l'immeuble, parce que chacun pense être assuré parce qu'il a sa propre assurance, sauf que les murs ne sont pas assurés, la toiture qui brille, etc. Donc c'est vrai qu'il y a toute une acculturation à faire. Et quand aucun volontaire ne se présente pour être syndic bénévole de la copropriété, on les oriente vers des syndics professionnels. Parce que c'est un métier de réunir une assemblée générale, de suivre des travaux, de tenir les comptes de la copropriété, de gérer des sinistres, etc., etc. Donc c'est vrai que, donc ce qui est important, c'est de dire déjà que la copropriété, c'est pas quelque chose qui tend à disparaître. Au contraire, on va avoir de plus en plus de copropriétés. Donc la copropriété a de belles années devant elle. Et c'est vrai que c'est un sujet qui reste... Alors, somme toute complexe, et nous, on le voit par rapport à nos primo-accédants qui viennent nous voir. On les avait questionnés.
Qui sont souvent jeunes, qui sont pour la plupart jeunes.
Voilà, souvent, on achète pour la première fois. C'est la première fois qu'on achète son logement. Et on les avait interrogés dans 8 cas sur 10. Ils n'ont à peu près aucune connaissance de la copropriété. Mais par contre, la montée en compétences, elle est assez rapide. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'implique dans le conseil syndical, on a envie de savoir, on va vite. C'est-à-dire, au bout d'un an, on commence déjà à savoir beaucoup plus de choses, au bout de deux ans, etc. Et c'est vrai que le profil, souvent, des copropriétaires très investis sont plutôt des profils de copropriétaires un peu plus âgés, parce qu'ils ont un peu plus de temps.
Oui, c'est ça. C'est un manque de temps, souvent, c'est ce que j'ai envie de dire. Un défi majeur, la rénovation énergétique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Comment vous accompagnez les copropriétaires dans leur prise de décision, justement, sur le terrain ?
Alors, il y a plusieurs sujets. C'est-à-dire qu'il y a définir quel est le projet. Donc là, c'est le syndic qui travaille avec les entreprises, avec les professionnels qui soient architectes ou autres, qui vont permettre de définir le projet adéquat par rapport à l'époque de construction, la qualité du bâti, ce qui a été fait préalablement, etc. Nous, on les accompagne sur la construction d'un plan de financement. C'est-à-dire qu'on peut intervenir, les ADIL peuvent intervenir en assemblée générale, aux côtés du syndic pour rappeler qu'il y a des aides aux propriétaires occupants, à la copropriété, aux propriétaires bailleurs.
Les aides sont souvent méconnues d'ailleurs, vous allez me le confirmer.
C'est ça. Donc, et après, il y a des enjeux de prêts collectifs. Enfin, voilà. Il y a plein de solutions. C'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a plein de solutions. Ce qui est important, c'est de les partager et que chaque copropriétaire puisse se les approprier et puis se projeter dans ce projet de travaux en se disant « Ah, ok, finalement, je peux les financer, mon reste à charge, il est temps, mais il y a moyen de... » Voilà, on a des solutions.
Benjamin, François-Emmanuel, vous qui êtes sur le terrain, qui êtes administrateur de biens, est-ce que vous constatez aussi ce que dit Roselyne, là, dans les... ce qui ressort, en tout cas, des problématiques des copropriétaires concernant la rénovation énergétique, là, par exemple?
Ben, là, évidemment qu'on a ces problématiques sont au cœur de nos journées tous les jours. Pourquoi ? Parce que effectivement, je vous rappellerai que tous les appartements en DPEG sont interdits à la location. Donc effectivement, on travaille sur la rénovation énergétique d'une manière globale sur la copropriété et sur des enjeux que ce soit du ravalement, de l'isolation de toiture. Ou des changements de système de chauffage. Tout ça, c'est nos enjeux. Et effectivement, notre principale priorité, c'est que nos clients comprennent. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils voteront pas. Et donc, je voudrais revenir sur un point. Il est en projet de baisser les majorités pour faire passer plus de choses lors des assemblées. Et surtout, notamment pour les travaux de rénovation énergétique, ce serait une énorme erreur.
Pourquoi ?
Parce que déjà, nos clients pensent que leur vote ne compte pas. Alors, si vous baissez
la majorité.
Les majorités, et ben, très clairement, ils s'intéresseront encore moins à leur copropriété. Et après, il sera encore plus difficile de les faire, de leur faire régler les charges et notamment les charges travaux.
Mais vous avez peur de ça ?
Mais ce sujet, en fait, de rénovation énergétique est extrêmement intéressant à l'aune de cet anniversaire de la loi de 65. Parce que d'une part, bien évidemment, 65, c'était pas du tout la préoccupation. Pour autant, elle est rentrée dans le schéma, on va dire, de gestion du syndic. Et en fait, quand je vous disais qu'en fait, on passe sur la place de l'immeuble dans la société, dans sa consommation énergétique, c'est aussi un nouveau rôle qui est joué par le syndic, qui est en fait un transmetteur des pouvoirs publics et de la puissance publique. C'est-à-dire que c'est le rôle du B2C entre la loi et les obligations réglementaires. Donc c'est le professionnel qui vient porter la bonne parole, prêcher la bonne parole du pouvoir réglementaire. Mais on a ça sur de très nombreux sujets. Donc on voit bien que la loi 65 a défini les rôles du syndic, mais un rôle qui a été finalement évolutif. On a parlé que la loi avait 50 pages et désormais, avec son décret, et maintenant 150, mais bien évidemment, c'est logique, puisqu'en fait, on est rentré un peu plus dans le détail des choses. C'est comme la loi Carrez, enfin, elle n'existait pas, moi, au début de ma carrière.
Ça semble
absurde actuellement, mais en fait, on voit, et c'est normal d'avoir inclus des points, et puis c'est normal qu'il y ait eu le seul problème qu'on peut reprocher à la loi de 65, c'est, comme l'a très justement dit le professeur Périnet-Marquet, c'est qu'en fait, on y a ajouté des muscles, mais aussi de la graisse, c'est-à-dire des choses qui sont surabondantes.
Par exemple ?
Ben on peut avoir des dispositifs qui sont... moi, je ne crois pas du tout au fait qu'il faille rappeler chaque année dans la convocation des éléments. Donc, on a comme ça. Maintenant, chaque année, on va rajouter un point, les jouissances privatives, on va rajouter des informations sur les charges. En fait, à force de noyer les gens d'informations, ils n'en perçoivent plus rien. Ils savent très bien que ces pages-là, ils n'ont pas besoin de les lire, ils les occultent complètement. Alors que ce serait de temps en temps, on mettrait un bon coup sur la table, je veux dire, les choses seraient claires, Mais là, ça n'a pas beaucoup de sens. On a des mentions sur les appels de fonds, sur le côté, pour lequel on leur rappelle qu'ils ont la possibilité de faire des... De mettre des points à l'ordre du jour, enfin en marchant la tête, je veux dire, c'est écrit maintenant en police 3. C'est toute une série de contraintes, en effet, qui sont complètement superflues. De la même façon, on pourrait alléger en quelque sorte, si on revenait au rôle principal et fondateur, de mandataire du syndicat des propriétaires pour le syndic. C'est-à-dire que lui indiquer à quelqu'un qu'il n'a pas le droit de dépenser 100 euros, puisque c'est parfois le seuil qui nous est fixé par les propriétaires. Il y a un moment, c'est bon, on n'est pas non plus des incapables majeurs. Chaque année, on remet notre tête sur le bio d'une nouvelle élection. Ils ne sont pas contents. Mais au moins, ça simplifierait les choses, ça fluidifierait les actions au moment de leur activité, tout en disant, attention, vous allez vous fixer des seuils, et puis vous n'allez pas dépenser d'argent. Et puis vous allez mettre en concurrence des 300 euros. Et après, on dit, mais vous manquez de réactivité. Alors, il faudrait savoir ce qu'on veut. Mais bon, c'est tout le paradoxe de cette situation entre les gens qui viennent dans l'Assemblée générale et ceux qui évaluent notre action. En fait.
Alors, si vous deviez chacun résumer peut-être les échanges d'aujourd'hui assez constructifs, au final, de vos différentes tables rondes, quels seraient-ils ?
Moi, je peux retenir l'étude qui a été faite et qui a été présentée. Je pense que je pense qu'il y avait des enseignements très... qu'on va pouvoir garder, vous allez pouvoir diffuser, je pense, généreusement.
C'est vrai que c'était assez révélateur au final et puis assez surprenant pour certains points.
Comme avec Benjamin, nous avons participé à la rédaction de ces questions.
Ouais.
Sincèrement, il y en a certaines auxquelles je ne m'attendais pas du tout.
Laquelle par exemple?
Le montant des honoraires, bien évidemment.
Oui. 140 euros par mois alors que c'est à l'année.
C'est
les honoraires qui sont
surestimés. En France, pourquoi pas. Mais oui, typiquement, c'est des honoraires qui sont presque 10 fois ce qui est exactement pratiqué. Donc, c'est quelque chose d'assez étrange. Mais c'est, comme le disait le détaché de Ipsos, c'est que peut-être que l'attente est à hauteur des honoraires que les personnes pensent verser.
Bien sûr.
Et donc, ce qui est tout le paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, mais alors, si vous voulez ce service-là, moi, je veux bien être payé 140 euros du mois.
Même question pour
on peut se reprocher cela qu'à nous-mêmes. Encore une fois, c'est un défaut de communication. Comment on peut penser qu'on paye 140 euros par mois alors qu'on en paye 20 euros, même pas 20 euros? Il faut à tout prix aller voir monsieur Niel et lui dire franchement il a tout compris et nous on n'a rien compris. On a tous l'impression que notre téléphone ne coûte rien aujourd'hui.
Ouais.
Et pour autant, il coûte plus cher que l'intervention de son syndic qui le fait vivre. Il y a un moment, il y a un décalage très important. Mais écoutez, moi, j'ai passé une super journée, un super début de journée. C'était très intéressant. On a eu des intervenants de qualité qui ont posé des vraies problématiques avec aussi... des vraies solutions. Bon, moi, je suis effectivement très, très copropriétaire bailleur, donc j'ai expliqué le fait que les copropriétaires bailleurs, eux, ne venaient pas en assemblée, mais pour autant, ils votaient, parce qu'ils comprenaient l'importance de leur vote. Et donc, mais c'est vrai qu'on peut leur reprocher de ne pas créer de lien, parce qu'en fait, ils sont un peu loin de l'appartement qu'ils louent.
Ouais.
Sachant qu'il faut rappeler que 90% des propriétaires n'ont qu'un seul bien.
À Paris.
À Paris.
Mmh.
Hein, donc en location. Donc il faut bien comprendre que pour eux, l'enjeu, il est le revenu qui va leur permettre de vivre leur retraite paisiblement. Et donc, voilà, ils comprennent les enjeux de la rénovation énergétique et c'est pour ça qu'ils votent. Voilà.
Roselyne, pour résumer les échanges constructifs que vous avez eus.
Alors, je pense que ce qu'on va retenir collectivement, c'est que la copropriété, ça reste un sujet passionnant. Je dirais globalement, comme tout le sujet logement. Et c'est vrai que voilà, ça montre toute l'expertise qu'il faut avoir pour décrypter ce texte, pour le comprendre. Et puis, si on souhaite le faire évoluer, effectivement, il faut associer ceux qui l'appliquent pour effectivement faire du mieux et pas du plus compliqué, puisqu'effectivement, tous les jours, sur le terrain, quand doit le traduire, l'expliquer, mettre en pratique... Il y a les professionnels, nous on renseigne plus les ménages, mais c'est vrai que je pense qu'il faut collectivement qu'on avance vers quelque chose qui apporte, je dirais, du plus sur le fonctionnement d'une copropriété qui doit rester avec ses règles, qui permettent justement d'éviter des dérives, des incompréhensions. Et il ne faut pas trop surcharger. C'est un petit peu le risque d'aujourd'hui, c'est la surenchère et le millefeuille législatif qui, quelquefois, est contre-productif.
Alors, on n'arrive pas à faire comprendre, mais une des mesures de simplification, notre contrat de mandat, qui est obligatoire et sur lequel on ne peut pas modifier le moindre terme, comment veux-tu communiquer si tu ne peux pas mettre en exergue certains points qui sont plus favorables? Ce contrat, il est... par certains aspects, il recouvre beaucoup de sujets, mais surtout, il y a d'autres aspects sont incompréhensibles, mais même pour le commun des mortels. Et c'est, donc, je comprends que les clients soient loin de nous.
On nous a mis des bâtons dans les roues. En fait, si on veut simplifier ce contrat, on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit. Donc, c'est sincèrement pas facile. Et les clients, ils comprennent pas.
Bien
non,
sûr.
Mais vous pouvez supprimer cette... Ah non, je ne peux pas.
Vous pouvez aménager même cette phrase. Parce qu'en fait, ils nous demandent des modifications sur le contrat. On leur dit qu'on ne peut pas. Mais alors ça, et on leur indique qu'on va faire une annexe au contrat.
Ouais.
Mais
on y viendra peut-être.
Il y a même le HLM à l'intérieur. Il y a même le syndic bénévole.
Tout est mélangé. En tout cas, je retiens vos mots, Roselyne. Faire avancer les choses ensemble. Ouais. Aiguiller le législateur. En tout cas, ensemble. Merci à vous trois pour cette interview. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants. Toujours en direct du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, pour le 12e forum de l'INIS. À tout de suite.
Les 60 ans de la copropriété, entre héritage et renouveau, en partenariat avec Axéo, Drieux, Combaluzier et Bâtisanté, jeudi 10 avril 2025 sur Radio Immo.